Allô?
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir, je sais pas qui parle là, mais.
C'est Muriel Simon, mais je suis
Ah.
désolée, je ne suis pas disponible ce soir pour le cours.
Bon. Alors. Huitième jour. Huitième
Pardon?
jour.
J'aurais pu, là, maintenant je saurais faire marcher Skype, mais ce soir, ce n'est pas possible.
Bien.
Peut-être la semaine prochaine.
Ok.
Merci, merci.
Okay. Alors,
Comment ça a marché?
huitième.
J'y suis pour une raison.
Alors, c'est l'huitième jour, on va pouvoir y arriver. C'est l'huitième jour.
Comment ça a marché pour une fois?
On est dans l'inauguration du Mishkan. Pendant 7 jours, c'est Moshe Rabbeinu qui fonctionnait comme Cohen Gadol. Sans les vêtements du Cohen Gadol, il n'avait pas besoin de ça. Et pendant ce temps-là, c'est le temps d'inauguration du Mishkan, mais aussi d'inauguration des Kohanim, l'intronisation des Kohanim, d'abord de Aaron comme Cohen Gadol et de ses fils comme Kohanim, qui vont donc faire fonctionner le Mishkan. Donc voilà, donc on reprend d'une certaine manière, on s'arrête un peu sur les korbanot, on cesse un peu d'en parler, disons de façon, on cesse de parler des korbanot standards, parce qu'on va parler des korbanot, mais d'abord on va parler des korbanot que Aaron et ses fils vont approcher dans le processus d'inauguration. C'est un processus d'inauguration qui est un moment de très très grande simcha, mais il va y avoir une tragédie en plein milieu puisque, comme vous le savez, lors de cette inauguration, deux des quatre fils de Aaron vont mourir. Et puis ensuite, dans la paracha, on va parler aussi des lois de la cache-route des animaux, enfin, de ce qu'on peut consommer ou pas. Bon, alors on va commencer par la première partie. Et on va commencer par la chose suivante. On est dans le chapitre 9, donc, et le texte porte au début. Donc, Vahi Bayom HaShmini, donc c'est ce fameux huitième jour. Donc, le huitième jour, c'est le passage de Moshe à Aaron. Kara Moshe le Aaron Ulvanav. Moshe appelle Aaron ses fils. Il appelle aussi les Ziknei ou les Ziknei Israël. Qu'est-ce que les Ziknei Israël vont faire ici? Pour l'instant, c'est une question. On verra si on peut en parler ce soir. Mais a priori, on ne voit pas très bien ce qu'ils ont à faire là. Vayomer el Aaron. Et d'ailleurs, Moshe ne s'adresse qu'à Aaron. Kach lecha, egel ben bakar lechatat, ve'ail leola, tmimim, ve'akrev lifnei Hashem. Donc, il lui dit, tu vas prendre un jeune taureau. Tu vas approcher ce taureau comme korban chatat. Chatat, c'est le korban qu'on approche quand on a fait une faute. A priori, quand on a fait une faute par inadvertance. Ve'ail leola. Et tu prendras aussi un bélier que tu offriras en holocauste. Évidemment, ils doivent être tmimim, sans défaut. Et tu les approcheras devant la chaîne. Velbene Israël, t'es d'abord les morts. Et toi, Aaron, tu vas parler aux Bnei Israël et tu vas leur dire les choses suivantes. Tu vas leur dire, Krous et Irizim, la Khatot. Vous prenez un bouc comme Korban Khatat et aussi Ve'egel Vakeves, Beneshana, donc un veau et un agneau dans leur première année. Tzmimim, toujours, le Ola que tu vas amener en Korban Ola, que vous amènerez, pardon, vous, les Bnei Israël, en Korban Ola. Le Shorvail l'Ishlamim, un taureau et un bélier comme Korban Shlamim, c'est-à-dire de ces Korbanotes qui sont essentiellement par les propriétaires. L'Isboach l'Ifne Hashem, vous allez en faire la Shrita devant Hashem. Ou Mincha, vous approcherez aussi une offrande, crêpe, quoi. Blulo Bashemen, donc tremper, Blula, pétri avec de l'huile. Ki Hayom, alors, Ki Hayom Hashem Nira Alechem. Parce que aujourd'hui, Hashem va se montrer à vous. Vaïkru est Hashem Siva Moshe. Et le pasouk dit qu'ils ont fait ce que Moshe avait ordonné, donc Aaron a fait, et les Bnei Israël sur l'ordre d'Aaron. Ils ont fait tout ça, El Pnei Oel Moed. Bien entendu, ils ont approché ça dans le Beit HaMikdash, dans le, la Mishkan, pardon. Et Vaïkru Kol Aeda, et donc toute la communauté à apporter les korbanot qui ont été prescrits à la communauté. Vaya amdu lifnei Hashem, ils se sont tenus devant Hashem. Alors Moshe a ajouté, Vayomer Moshe, ze hadavar asher tziva Hashem ta'asu. Il leur dit maintenant, ce qu'Hashem a ordonné, faites-le. Cette chose-là, faites-la. Faites ce qu'Hachem a ordonné. Veillera alechem kvod Hachem. Et la gloire d'Hachem se manifestera pour vous. Alors évidemment, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est ce que Moshe dit à la fin. Il avait déjà dit tout ça. C'est quoi cette répétition? Surtout que ce n'est pas pour introduire quelque chose de nouveau, puisqu'il n'y a rien de mentionné de nouveau. Donc ça fait référence à ce qui a déjà été dit. Alors c'est quoi la nouveauté? Pourquoi il répète? Qu'est-ce qu'il dit de nouveau? En fait. En plus, non seulement il l'a déjà dit, mais le passage dit qu'ils ont déjà fait tout ce qu'il a dit de faire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ordre qui vient après qu'on a déjà obéi à l'ordre et on a fait ce que l'ordre demandait? C'est à peu près incompréhensible. Bien, on va voir ce qu'on peut essayer de dire de cela. Les Chachamim, dans le Torah de Kohanim, qui parle de ce psukim-là, et ils disent comme ça, « Amar lahem Moshe le Israël. » Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, « Oto yetzer hara » Aviru milimchem, milvavchem. Ce yetzer hara là, faites-le disparaître de vos cœurs. Vetiyu kulchem, et soyez tous beyirat dans un esprit de crainte révérentielle, Veira Achat ou Veitsa Achat, avec tous la même kavana, toute la même détermination, tous en train de faire la même chose, et tous empreints de Yirat Hashem, les charrettes l'ifne amakom pour servir devant Hashem. Keshem Shehu Yechidi Baolam, de même que Hashem est unique dans le monde, karte avodatrem meyuchedet lefanav. De la même manière, votre service pour lui, votre avoda devant lui, elle doit être aussi meyuchedet, totalement singulière. Im asitem ken, si vous faites cela, alors la gloire d'Hachem se manifestera en votre faveur, c'est-à-dire elle vous apparaîtra. Donc, ici, les Chachamim ont pris le taureau par les cornes, c'est-à-dire, ils ont essayé d'interpréter ce que Moshe Rabbeinu a ajouté ici. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur parle d'un Yetzirara qu'il faut éliminer, etc. Qui parle de Yetzirara ici? De quel Yetzirara il parle? Il parle d'un certain Yetzirara précis, Oto Yetzirara. Ce Yetzirara là, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, faites-le disparaître complètement de vos cœurs. Ici, donc, les Chachamim ont bien entendu qu'il y avait dans ce paragraphe que je vous ai lu, il y a deux sortes de mitzvot, si vous voulez, et en fait, toutes les deux mitzvot, ça veut dire tous les deux contenus prescriptifs qui disent voilà ce qu'il faut faire, concerne la même mitzvah, ça concerne une seule mitzvah, mais on en parle de deux manières. Donc ça veut dire, au début, ils ont eu un tzivoui qui concernait l'action elle-même, car lecha, egel ben bakar, lechatas, etc., prend un taureau comme korban chatat, etc. Et ça, ils l'ont accompli. Mais en fait, il y avait, semble-t-il, une intention quand ils ont fait cela, une intention qui n'était pas la bonne. Et Moshe Rabbeinu les reprend et il leur dit, « Zé Adavar, voilà, entendez bien, écoutez bien, Oto Yetzirara taviru milvavchem. Éliminez complètement ce Yetzirara de votre cœur. » Et donc là, il revient à la question, c'est de quel Yetzirara il parle ici. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a vu comme expression du Yetzirara lorsque les Bnei Israël ont fait ce qu'ils ont fait? A priori, ils ont fait exactement ce qu'il leur a prescrit. Qu'est-ce qu'il a vu, mon cher Abinou, là? Voilà. Alors, j'ai vu rapporter une explication construite du sujet, construite à partir d'un enseignement du Rav de Brisk sur le sujet qu'on appelle l'Ishma. L'Ishma, c'est qu'on dit qu'on doit faire les mitzvot l'Ishma, ou étudier la Torah, l'Ishma. Et par exemple, quand on dit qu'il faut faire la mitzvah l'Ishma, ce n'est pas la faire pour Hachem. Ça ne s'appellerait pas l'Ishma au féminin. Faire la mitzvah pour elle-même. La mitzvah parce qu'elle est mitzvah. Étudier la Torah parce qu'elle est Torah. C'est pas étudier la Torah parce que pour Hachem, pour s'approcher d'Hachem, etc. Tu étudies la Torah parce qu'il faut étudier la Torah, tu fais la mitzvah parce qu'il faut faire la mitzvah. Et c'est ça le grand problème. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on fait les choses chez l'Olishma, qu'on fait les choses et on ne les fait pas comme il faut ça voudrait dire les faire l'ishma, le shem la chose, pour la chose elle-même, nous, on a tendance à expliquer chez l'olishma, qu'est-ce que c'est pour nous faire une mitzvah chez l'olishma? Pour nous, avec nos petitesses en quelque sorte, pour nous, ça veut dire on va faire la mitzvah, mais on va, dans nos motivations, il y a des intérêts personnels, il y a des mélanges de pniot. C'est-à-dire, on fait les choses pour Hachem, mais aussi pour moi ou pour autre chose. Pour être bien vu dans la société ou pour entrer dans un groupe particulier, voilà, toutes sortes de raisons qui peuvent motiver quelqu'un pour faire la mitzvah, même s'il fait la mitzvah, fait la mitzvah, mais aussi pour ça. Alors ça, pour nous, c'est ça qu'on appelle, nous, chez l'olishma. Ça n'a pas été fait pour la mitzvah, parce que ça a été fait aussi pour des raisons sociales ou autres. Alors, Bruskov, il avait expliqué les choses de la manière suivante. Il avait dit, suppose, on dise à quelqu'un, un juif, que s'il fait une mitzvah, n'importe laquelle, une certaine mitzvah, s'il la fait bien, alors il aura comme récompense de, par exemple, de pouvoir remonter le temps, se trouver à l'école du Gaon de Vilna, pouvoir entendre son enseignement. C'est sûr que si on nous disait cela, on ferait la mitzvah avec beaucoup d'élan, avec simcha, avec force, etc. Bien entendu, la récompense est énorme. Et si maintenant on allait un peu plus haut, si on disait à cette même personne que si elle fait la mitzvah de la bonne manière, elle aura le mérite de rencontrer, je ne sais pas, le Ramban, ou bien un Amora, un maître de la Gemara, ou même un Tana, ou qui, alors, allons, lâchons-nous complètement, si tu fais la mitzvah comme il faut, tu vas remonter le temps, tu vas te trouver devant Moshe Rabbeinu. C'est sûr que l'élan qu'on aura pour faire la mitzvah, c'est indescriptible, la force qu'on aura, la joie qu'on aura à faire cette mitzvah. Complètement enflammé dans l'accomplissement de cette mitzvah. C'est ce qui est dit ici encore plus fort sur ce qui est dit au Bnei Israël. C'est marqué Kach lecha, Egel ben Bakar lechatat, etc., etc., tout ce que je vous ai déjà lu. Et le verset continue. Et il termine en disant Ki hayom Hashem nira alechem, parce que aujourd'hui, jour de l'inauguration du Mishkan, Hashem va se dévoiler à vous. Vous allez vous trouver aussi proche que possible d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment que cette motivation-là, elle est extrêmement puissante. Et ils vont faire ils ont fait la mitzvah avec toute l'énergie qu'on peut imaginer, toute la joie, etc., sachant que maintenant, ils vont se retrouver dans la proximité avec Hachem. Il ne faut pas oublier que le Mishkan, la réalisation du Mishkan vient pour obtenir l'accapara sur le veau d'or. Donc, ce que dit Moshe, c'est on va se retrouver avant le veau d'or. Imaginez l'énergie, la joie, etc., avec laquelle ils ont fait la mitzvah. Effectivement, dans le pasouk, c'est marqué que les Bnei Israël, à la suite de ce que Moshe leur a ordonné, le pasouk dit « Vayikru et asher tziva Moshe » ils ont pris ce que Moshe avait ordonné. Comment ils l'ont fait exactement? Ça, ils l'ont fait, Yisrazal. Bezrizout. Ils l'ont fait avec une zrizout, avec un zèle, un élan extraordinaire. Vaïkrevou, kol ha'eda v'yamdou lifnei Hashem. Ils se sont tous tenus devant Hachem, Kirvu Kulam Besimcha Ve'amdu Lefanav. Ce que dit la Torah de Kohanim. Et le Torah de Kohanim, il donne un machal. Bon. Est-ce qu'on a besoin d'un machal? On va voir. Il donne un machal. Il donne comme machal, machal le Melech. C'est un roi. Shekaas Alishto. Il s'est mis en colère contre son épouse et il l'a éloignée. Mais au bout de quelque temps, il s'est apaisé et bon, il lui a pardonné. Alors évidemment, dès le moment où elle a appris qu'il lui pardonnait, alors elle a essayé de faire du mieux possible. Elle s'est dépassée dans ce qu'elle allait faire. De la même manière, dit le Torah de Kohanim, c'est le Midrash Halakha, Afkar Israël, Kevan Sheraou Shinitratsa Amakom, ils ont vu qu'Akadosh Baruch Hu s'était apaisé et qu'il agréait de nouveau leur service après le veau d'or, les Raper Al Avonotehem, pardonner leurs fautes, Kirvu Kulam Besimcha, Ve'amdou lefanav. Ils se sont tous rassemblés, besimcha, devant Hachem. Hachamim dit à ce sujet-là que cet élan, cette simcha, Hazal dit, c'est yoter midai. C'était trop. Trop. Quand nous, on voit, enfin, si on voyait, quelqu'un qui exulte, qui se réjouit, etc., parce qu'il va s'approcher d'Hachem, en quelque sorte, à nos yeux, en vérité, on dit que ça, c'est une personne parfaite. Comment ne pas se réjouir dans une situation pareille? Comment ne pas exulter, etc. A priori, c'est quelque chose de totalement spirituel et tout ce que vous voulez. Bien sûr que tout le monde dans cette situation va réagir de cette manière-là, il va exploser de joie. Si en plus, on nous dit qu'Hachem vient, qu'il pardonne toutes nos fautes, C'est vrai, c'est juste. Mais souvenez-vous de ce que je vous avais dit au dernier shiur sur Pessah, sur les mitzvot, sur le fameux Naaseh v'Nishma, à la fin. En fin du shiur. Cette joie-là, ce cœur rempli de joie qu'on a là, pourquoi? Parce que Hachem va nous pardonner, etc., dès qu'on aura fait ce qu'il a demandé qu'on fasse. Cette joie-là, elle ne doit pas être une partie de ma motivation. On ne doit pas agir, même pour cette élévation spirituelle s'il en est, même pour cela, ce n'est pas pour cela qu'on doit faire la chose, faire ce qui nous est prescrit. Ce qu'on avait dit, les mitzvot, elles doivent être faites. C'est un signe, vous vous souvenez, de Avdout. Donc, ça va être fait uniquement parce que c'est prescrit. Parce qu'on nous en a donné l'ordre. Que par la suite, il y ait une joie, etc., bien sûr. Mais ça ne doit pas du tout participer à la motivation. Ce n'est pas pour ça qu'on doit faire les choses mieux ou etc. Ça ne doit pas jouer du tout. Parce que si quand quelqu'un fait une mitzvah, il se détache de ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est en train de se voir monter, s'approcher d'Hachem, etc. Ce qui est quelque chose qu'on comprend très bien, mais il se coupe de l'action. Je fais la chose parce qu'elle est prescrite. Eh bien, ça fait que les choses ne sont pas faites lishma. C'est ça le lishma qui intéresse, chez le lishma que la Torah ne veut pas. Bien que ce soit ici une recherche de kirva, de proximité avec Hachem. Et bien que, effectivement, cette proximité avec Hachem qu'on gagne en faisant la mitzvah, elle est quasiment une partie de la mitzvah. Quand Hachem dit, si vous faites ça, vous aurez, d'accord, ça ne veut pas dire que c'est séparé. Ça veut dire que quand tu fais la mitzvah, tu te trouves dans cet état-là. Donc, c'est complètement intriqué, c'est complètement dans le corps de la mitzvah, littéralement, cette récompense, cette élévation. Mais si ça joue au niveau de la motivation, ça s'appelle chez le lishma. Que ce soit pour avoir une parole à ma bac, que ce soit pour s'approcher d'Hachem, quelle que soit la formulation qu'on donne, est-ce qu'on en espère de cette mitzvah, même ce qui nous est promis de cette mitzvah, attention, ça ne doit pas être partie prenante au maasé. Le maasé ne doit être que l'expression du chiboud, l'expression de ce que nous sommes les serviteurs d'Hachem. Et l'expression de « je suis serviteur d'Hachem », si maintenant je fais aussi les choses parce que je sais que ça va me procurer une élévation spirituelle, etc., donc je ne suis plus du tout en train de le faire parce que je suis serviteur d'Hachem. Un peu pour ça, mais aussi pour ça, et puis éventuellement même que c'est la deuxième partie qui prendra le dessus. C'est ce que Moshe leur a dit. J'ai vu comment vous avez fait les choses. Vous avez fait les choses parce que je vous ai dit qu'Hachem allait se manifester, etc. Ça, c'était... C'est pour ça que Moshe Rabbeinu reprend les choses et dit, attention, c'est pas du tout comme ça que ça doit se faire. Vous devez faire les choses parce qu'elles vous sont prescrites. Point, barre. Fin de l'opération. Que d'avoir fait ces choses, ça vous élève, même au moment même où vous le faites, je sais que mais ça ne doit pas être la motivation. J'ai souvent apporté un exemple un peu beaucoup plus ras de terre, mais il est clair que on dit toujours que les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Donc si vous offrez un cadeau à quelqu'un, ça entretient l'amitié. Mais s'il est clair que vous n'avez donné ce cadeau que pour gagner l'amitié, etc., non seulement le cadeau ne sera pas reçu comme quelque chose qui va augmenter l'amitié, mais éventuellement, il va ne pas être reçu du tout. Ça s'appelle, tu veux essayer de... C'est pas la corruption, tu veux m'acheter, tu veux... etc. Ça, c'est beaucoup plus ras de terre, mais c'est du même ordre. Il y a des choses qui, si elles sont faites parce que on sait qu'elles ont telle et telle conséquence, mais que c'est justement ça qui est visé, ça perd tout son intérêt. Le cadeau en question, il n'entretient pas l'amitié. Parce que l'autre, il entend, tu es en train d'essayer de m'acheter, alors on n'est pas en amitié, maintenant tu veux fabriquer de l'amitié en m'achetant avec un cadeau. C'est insupportable.
Un Kronstein ?
Je suis là, oui.
Comment c'est possible de dissocier à ce point ?
Alors c'est ça qu'on va parler, on va en parler, oui. On va parler comment on fait. Parce qu'effectivement, c'est joli de, enfin, c'est pas joli, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça doit être. C'est ça que, c'est cette leçon-là qu'on nous donne avec les premiers korbanot qui sont approchés dans le Mishkan. Première leçon, avec les premiers korbanot. Si vous voulez, si on pousse ça très loin, alors c'est la situation qui a amené à toutes les remontrances des prophètes au temps du Beit HaMikdash. Hachem disait, j'ai rien à faire de ce que vous m'apportez alors que vous respectez pas ma loi à l'extérieur. C'est-à-dire quoi, vous pensez qu'il y a espèce de truc à payer, comme ça on est proche d'Hachem, et on est proche d'Hachem, et donc tout va très bien, à l'extérieur on fait ce qu'on veut. Ça c'est une déviation encore un peu plus grande, mais tout ça c'est, là pour l'instant on est entièrement dans une façon idéale, c'est pour m'approcher d'Hachem, alors pourquoi, c'est pour mon olama, pour construire le Olam Haba, et pourquoi tu viens et tu me dis que ça c'est chez l'Olishma? Oui, c'est chez l'Olishma, parce que l'Ishma, On avait dit au shiur sur Pessah, sur les mitzvot, dans une mitzvah, effectivement, il y a une partie qui est le naase, expression de la havdout. Et après cela, quand tu as fait les choses parce que tu as manifesté, et ce faisant, tu as manifesté que tu étais un serviteur d'Hachem, à ce moment-là, sache que cette mitzvah-là, il faut maintenant l'étudier, savoir les raisons pour lesquelles c'est cette mitzvah-là plutôt qu'une autre qui a été donnée, parce que si c'était simplement pour me demander de marquer ma soumission à Hachem, Hachem aurait pu donner n'importe quoi. C'est n'importe quel, il a donné des mitzvot bien précises. On sait par ailleurs qu'elles correspondent à la construction des 248 et 365, à la construction du corps humain, à des règles de fonctionnement du monde entier, etc. Tout ça. Et à chaque niveau, toujours plus profondément, je dis profondément et je monte, mais bon, toujours plus profondément dans le sens, en s'élevant de plus en plus, effectivement, ça, on avance dans le tam, dans la raison de la mitzvah. Mais cette raison de la mitzvah, elle ne joue aucun rôle dans la motivation, dans le fait que je dois faire la mitzvah parce que je suis Eved d'Hachem et je dois obéir. Et après, que j'y gagne en quelque sorte, très bien, magnifique. Mais d'abord, il faut accepter que, manifester que je reconnais que je suis Eved d'Hachem. Et c'est ça le Shelo Lishma. Donc la question, évidemment, c'est, ok, très bien, très magnifique, ce que tu veux, mais comment on fait? En général, les Baalei HaMussar, les maîtres du mouvement Moussar, du travail sur soi, etc., ils font une distinction fondamentale dans ce qu'on appelle les Kochot HaNefesh, les forces d'âme de l'être humain. Justement, les réactions de la sensibilité de l'âme humaine, elle doit être limitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a une seule émotion, en quelque sorte, si vous parlez comme ça, alors cette émotion, si elle est importante, elle va d'une certaine manière prendre toute la place. Supposer qu'on considère le cœur comme son lieu et que le cœur, c'est un volume limité, tout ce volume va être occupé par cette émotion qui est là, seule. Et du coup, ça ne laisse plus de place à aucune autre émotion. Elle s'installe et prend toute la place. Donc, il va falloir travailler pour que elle ne prenne pas toute la place. Il y a une Gemara. La Gemara, elle nécessiterait beaucoup plus de temps d'explication, mais bon, je vais vous la donner quand même. Même si on n'en prendra qu'une petite partie. La Gemara, elle est dans Masechet Yoma. Et elle met en scène deux Kohanim de même niveau, de même standing, deux exemplaires, deux jumeaux, quoi. Kohanim. Et puis, il y a des situations dans lesquelles, pour arriver sur le Mizbeach, il y avait une rampe d'accès. Comme on a appris à la fin de Parshat Yitro, il y avait une rampe d'accès. Ce n'était pas des escaliers. Tu ne monteras pas avec des marches. Ce n'était pas un escalier, mais c'est un plan incliné. Et donc, il y avait des moments où deux Kohanim couraient pour être le premier. Parce que le premier arrivé, c'est lui qui allait faire l'essentiel du travail sur le Mizbeach, enfin d'une partie du travail sur le Mizbeach. Il y en a un qui est entré dans le... Il était en train de dépasser l'autre, quoi. Celui-là qui allait être dépassé ou rattrapé, il a pris un couteau et il l'a planté dans le cœur de l'autre Cohen. Bon, c'est déjà un peu surprenant, mais bon. Va aviv shel tinok, bon, on dit, arrive le père du jeune Cohen en question, ou matzao shir mefarper. Il voit que son fils est en train d'expirer, mais il est encore vivant. Amar, areu kaparatrem, il va vous donner sa mort, la mort d'un tzaddik, etc. Il sera votre kapara. Mais mon fils est encore en train de respirer. Et donc, il n'est pas mort. Donc, le couteau qui est dans son cœur, il n'est pas en train de toucher un cadavre. Donc, si on retire le couteau, il ne va pas être impur de l'impureté de quelque chose qui a touché un cadavre. Bon, t'as resté assis sur vos chaises, d'accord ? On a du mal à comprendre ce fameux père-là. Et il dit, voilà, il s'occupe de ça. Alors la Gemara, elle dit, tu apprends de là que les Kohanim, ils donnaient beaucoup d'importance à la pureté de leurs instruments. Il a un sakin, il a un couteau, et son problème, c'est est-ce que le couteau est pur ou est-ce qu'il est impur parce qu'il a touché un mort? Et ils ont dit, dans la Gemara, on a dit, on voit que ça leur est tellement important, c'est plus important pour eux que le meurtre. Ça veut dire, dit la Gemara, que à leurs yeux, shfichut damim, le meurtre, c'est quelque chose d'assez léger pour eux. La Gemara, elle se scandalise de cette démarche, espèce de déformation des Kohanim qui sont tellement en train de vérifier que tout se fait dans la pureté, etc., qu'ils en perdent. Les proportions, quelque part. Ils perdent le sens des proportions. C'est quand même un problème de si un sakin est impur, qu'est-ce qu'on va faire? On va le purifier. Mais ici, il s'agit d'une mort d'homme. Et comme on dit, c'est les choses, c'est insupportable. C'est quoi cette histoire? Normalement, quand on est témoin d'un meurtre juste devant soi, normalement, ça doit prendre toute la place. Dans cette émotion-là, elle doit prendre toute la place. Et il ne doit plus y avoir de place, même plus de place pour une mitzvah. Un être humain, il ne peut pas ne pas être complètement pris par un meurtre qui est fait sous ses yeux. Ou alors, c'est qu'il s'est tellement habitué au meurtre que c'est une quantité négligeable. Bon, si on éduque les gens à penser que c'est pas grave de tuer quelqu'un, effectivement, alors, il y aura de la place pour toutes sortes d'autres choses en même temps dans leur cœur. C'est pas que c'est pas possible. On sait bien que c'est possible. On sait bien qu'on peut motiver les gens, on peut habituer les gens, etc. C'est un problème d'éducation, etc. C'est un problème qu'on a aujourd'hui avec les enfants qui regardent. Je sais pas, j'ai entendu une fois une statistique, mais je me rappelle même plus de combien. Est-ce que c'était les Américains qui disaient qu'un enfant américain, je sais pas, jusqu'à l'âge de 12 ans, je sais pas combien de centaines de meurtres qu'il a déjà vus à la télévision ou sur son ordinateur, etc. Et donc, ça lui vient un symbolium, ça veut dire que c'est courant. Il ne va pas. Il a vu que ça. Ça veut dire que les Kohanim, à ce moment-là, les Kohanim de cette époque, je pense que si la Gemara parle comme ça, elle pense que bon, c'est arrivé pour une personne. Pourquoi on a généralisé, comme on dit, les Kohanim, etc. Probablement que c'était dans l'air du temps. Les gens de cette génération, en fait, c'est la génération de la destruction du Beth Amikdash. Ils étaient en quelque sorte frappés d'un manque de sensibilité au meurtre, à l'assassinat. Quelque chose qui normalement devrait bouleverser. Mais chez eux, ça ne bouleverse pas tellement puisque ça laisse de la place à des considérations technico-religieuses. On peut poser une autre question. Si un religieux de la génération d'avant, Rabbi Tzroka Isikcher, il s'était étonné sur cette Gemara, d'accord, qui parle effectivement de la perte, de la notion de proportionnalité. Mais ici, on a passé complètement sous silence que c'était un père pour son fils. Ce n'est pas un assassinat. C'est un père qui voit son fils se faire assassiner. Pourquoi est-ce que la Gemara n'a pas soulevé le problème en disant qu'ils ont perdu toute sensibilité, puisque même un père qui voit son fils se faire assassiner, ça ne le remplit pas complètement d'effroi et de... On aurait dû dire dans la Gemara, le lametra shekaché aleem taharat kelim bishvichut damim shel beneihem. On aurait dû dire, il est plus important pour eux la pureté des instruments de travail des Kohanim, c'est plus important que l'assassinat de leur fils. Maintenant, on peut dire que la raison pour laquelle la Gemara n'a pas traité ça, Hazal voulait dire que même si ça n'avait pas été le fils, c'est aussi scandaleux. La Gemara, elle n'a pas voulu dire c'est seulement parce que c'est son fils que. Non, pas du tout. En vérité, ça devrait avoir la même réaction, c'est-à-dire c'est inacceptable, même si ce n'est pas son fils. Et donc maintenant, on revient à une autre question. Comment est-ce qu'on peut exiger de quelqu'un alors qu'il est face à quelque chose qui le prend au plus profond de lui-même, une possibilité de s'approcher d'Hachem, etc., d'obtenir le pardon, et tout. Kirvat Elohim, proximité avec Hachem. Et à ce moment-là, faire une mitzvah. Donc il sait que avec cette mitzvah, ça va lui apporter justement. Cette mitzvah, elle n'est pas extérieure. C'est pas qu'on lui en veut de ne pas avoir fait une autre mitzvah, de, je sais pas, qui n'a rien à voir avec la situation. D'accord ? Ce que mon cher Rabbi nous reproche, en quelque sorte, c'est d'avoir, de ne pas investi dans cette mitzvah, enfin, ou d'avoir vu dans cette mitzvah les conséquences de la mitzvah et pas le côté assiya de la mitzvah, le fait que, voilà, et je dois faire la mitzvah, c'est ça le maasé. C'est seulement après, c'est le naasé, avant le nishma. Comment est-ce qu'on peut exiger de se détacher à ce point-là de ce qui vous envahit, vous élève d'une telle manière? Ça veut dire qu'en réalité, c'est ce que je vous ai dit plusieurs fois, dès que ça touche Hachem, ça c'est Yirat Hachem par exemple, ça ne peut pas aller de pair avec une ira de quoi que ce soit d'autre. Craindre Hachem et le policier du coin ou le dictateur, etc., ce n'est pas possible. Ça ne s'appelle pas craindre Hachem. La crainte d'Hachem, elle doit enlever toute autre crainte parce qu'elle nous envahit complètement, elle doit me remplir complètement. Et là, le sentiment d'être évêt d'Hachem, c'est être évêt d'Hachem à 100%. Les Chachamim, à l'époque de Mordechai, ils disent, nous ne pouvons pas dire que nous sommes avdei Hachem. Pourquoi? Parce qu'on est encore citoyen ou sujet de l'empereur Achashverosh. Mais ils sont sujets de l'empereur Achashverosh, alors que la reine c'est Esther et que le grand vizir c'est Mordechai. Donc, ça a l'air très formel, cette situation d'être sujet de. On pourrait dire, bon, ça n'empêche pas d'être Eved Hashem, si. On ne peut pas dire Eved Hashem dès lors qu'il y a une dépendance autre que celle-là. Et d'une certaine manière, quand on est en galoute, il faut faire attention de bien comprendre qu'on est en galoute parce qu'Hashem nous a mis en galoute et on est toujours en galoute, c'est toujours par rapport à Hashem qu'on est en galoute. Alors, c'est pas qu'il faut pas respecter certaines règles. Ce n'est pas des règles qui sont mes motivations. Ma motivation, c'est je suis en galoute parce qu'Hachem m'a mis en galoute. Alors, c'est ce problème-là de moi par rapport à donc ma volonté, par rapport à la volonté d'Hachem, c'est la fameuse Mishnah dans Avot. La Mishnah dit, où aya Omer, le Tana il disait, Aser Retsono Kirtsoncha. Fais de sa volonté la tienne. Batel Retsoncha, Ipne Retsono. Annule ta volonté devant la sienne. Et on a l'impression qu'il y a répétition ici, dans les deux parties. Alors, il faut le lire de la manière suivante. Quand on dit « Aser Retsonra Kirtsono », littéralement, ça veut dire « fait sa volonté comme la tienne », ça veut dire que il faut faire en sorte que la volonté divine devienne pour toi comme un désir profond. Que ce soit ta volonté, exactement, comment c'est dans ta volonté, c'est un désir profond. Il faut que sa volonté devienne un désir profond chez toi. Ratsono devienne ton ratson. C'est-à-dire que tu t'identifies avec le ratson d'Hachem. Comme nous les identifions avec nos désirs les plus profonds, eh bien, fais-le par rapport à la volonté d'Hachem. Et le Tana, il revient là, dans la deuxième partie et il nous dit, il le dit encore autrement. Il dit, « Batel retsoncha mipnei retsono, annule ta volonté devant sa volonté à lui, Hachem. » C'est-à-dire, ça ne suffit pas que la mitzvah qu'il t'ordonne devienne ton ratson profond. Ce n'est pas suffisant. On te demande que ton ratson à toi n'existe pas. Alors, ne fais pas coexister le ratson d'Hachem à côté de ton ratson. Bien sûr, tu les as mis à la même hauteur. Donc, tu as bien fait de son ratson un ratson comme le tien. Mais bat-elle ratson? Oui, non, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas qu'il reste à côté du ratson Hachem qui est devenu le tien, hein, un autre ratson qui est un ratson supplémentaire qui est le tien propre. Celui-là, il faut être bat-elle auto. Il faut l'annuler. Donc, il faut que le ratson divin, en fait, ici, prenne toute la place. C'est toujours cette idée. C'est, par rapport à Hachem, ça doit être toujours entier. Entier, entier, c'est Tamim, Tiyem, Hachem, Elokecha. Tu dois être entier avec Hachem. Donc, par rapport à cette inyan de ce sujet de l'Ishma dont on parle ici, on entend que ce n'est pas seulement que la mitzvah, la volonté de faire la mitzvah doit devenir la tienne. Hachem t'a demandé de faire une mitzvah. Il faut que tu l'intègres au point que ça devienne ton désir le plus profond. Et nous, jusqu'à présent, on aurait compris. Et il n'y a pas de place pour un désir profane à côté de ça. Il n'y a pas de place pour, je le fais aussi pour entrer dans la société, pour être bien vu, pour avoir une bonne réputation, ou ceci parce que je veux faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, peu importe. C'est pas seulement ça, mais même si il y a parallèlement à ce ratson de faire la mitzvah, un ratson purement spirituel, de s'élever vers Hachem, de toutes ses forces, un désir de s'approcher d'Hachem, ça non plus. Batel ratsonra. Si c'est ça ton ratson maintenant, il n'a pas de place. Dans la notion de ratson. Ça ne veut pas dire que dans ta tête, tu ne sais pas que d'avoir fait cette mitzvah, ça va t'ouvrir des horizons. C'est ça qui va t'amener proche d'Hachem. Je le sais. Mais ce n'est pas ma motivation. le cadeau qu'on donne dans l'exemple que j'ai donné, j'ai envie de donner un cadeau à cette personne. Je sais très bien que ces petits cadeaux entretiennent l'amitié. Je le sais. Je ne peux pas me cacher en disant je ne sais pas. Je sais que c'est vrai. Mais ce n'est pas ma motivation. Et ça ne doit pas l'être. Ici, on voit que si les Bnei Israël n'avaient pas fait le Hegel, ils n'auraient pas eu besoin, semble-t-il, d'après certains, du Mishkan. Et donc, tout ce Mishkan, c'est donc une capara pour la faute qui a été commise. C'est-à-dire, ils sont occupés d'obtenir la capara pour la faute. Du coup, on peut se dire, on s'était posé la question, c'est quoi le auto-yetserara, ce yetserara-là, il faut le faire disparaître, complètement. De quel yetserara on parle? On parle de celui-là. Vous êtes occupés, nous sommes occupés à ce moment-là, à l'inauguration du Mishkan. Le Mishkan, une de ses fonctions, en tout cas, c'est l'accapara sur la faute du Hegel, donc, ça nous oblige à nous remémorer la faute du Hegel, c'est-à-dire le Yetzirah qui nous a amené à faire le Hegel. Et donc, bien sûr. C'est ça que mon cher Rabbi leur dit. Ne soyez pas du tout préoccupés par ça. Il s'agit de faire ce qui vous est prescrit, point barre. Sans s'occuper de ce que ça va avoir comme conséquence. Le Ramban, là-dessus c'est une marloquette, mais le Ramban, il dit, concernant la faute du Hegel, il dit « Lo bikshu a Hegel, liyot lahem le el memitu mechaye. » Ils n'ont jamais voulu que ce Hegel, ce vaudor qu'ils ont fait, soit une divinité qui fasse mourir et qui fasse vivre, etc. Ils n'ont jamais voulu lui donner ce pouvoir. Vous pensez qu'il l'avait. Aval Yirtsu, mais ce qu'il voulait, chez Yelahem, il voulait que ce Hegel soit pour eux, Bimkom Moshe, à la place de Moshe. C'est-à-dire Moré Darkam, quelqu'un qui leur indique le chemin, quelqu'un qui les guide. Comme Moshe les a guidés pour les sortir d'Égypte, le Ramban y pense, je vous dis, c'est une discussion, mais en tout cas, le Ramban, il pense qu'ils n'ont pas fait cette faute dont cette année, j'ai un peu parlé d'après ceux qui pensent que l'erreur fondamentale, c'est qu'ils ont pensé que c'était Moshe qui les avait sortis d'Égypte. Le Ramban, il ne pense pas comme ça. Le Ramban, il pense que il savait très bien que c'est Hachem qui les a sortis d'Égypte. Mais il pense que c'était grâce ou uniquement parce qu'il y avait Moshe. Et qu'ils ont absolument besoin de quelqu'un sur le terrain, si disons comme ça. Hachem les guide, mais il a besoin d'un intermédiaire sur le terrain. Alors, c'est ça le Nisayon, l'épreuve qu'il y avait justement à cette inauguration du Mishkan. Chazal ont dit, dans les Yerushalmi, ils ont dit « Asé me ahava, agis par amour, mais aussi asé me ira, mais agis aussi, pas entièrement par amour. Il faut aussi agir par, dans la crainte révérentielle ou autre, mais dans la crainte. Pourquoi ?« Asé me ira », pourquoi ? Parce que « Shim bata livot » parce que si jamais tu as... D'un coup, tu te révoltes, tu as envie de te révolter. Dash et Atayare, sache que tu as de très bonnes raisons d'avoir peur, d'avoir la crainte, quelle qu'elle soit. Venayare mevait. Et quand quelqu'un il a de la ira, il ne se révolte pas. Donc, l'amour, si vous voulez, c'est risqué. Parce que l'amour, ça monte, ça peut descendre aussi. Donc, par l'amour, et dans le cadre de l'amour, on peut être amené à faire toutes sortes de choses. Lorsque l'épreuve vient ici, ils doivent savoir exactement fixer les limites de la ira. La ira, c'est quoi qu'il en soit, maasé. Quoi qu'il en soit. Quels que soient tes états d'âme, il y a un maasé. Il y a des actions à faire, c'est ça. Et si maintenant vous les faites avec élan et avec joie, etc., ben c'est comme ça monte, ça peut aussi descendre. Il n'y a pas de limite. C'est gravissime. Il faut absolument que vous compreniez que le maasé doit être fait quel que soit l'état d'esprit dans lequel on est. C'est ça, être vraiment Eved d'Hachem, être vraiment au service d'Hachem. En d'autres termes, c'est la deuxième partie de ce qu'on a vu ici. Assez, va-t-elle Ratzoncha? Annule ton Ratzon devant Hachem. Donc, devant Hachem, tu dois t'annuler complètement. Donc, il faut qu'on soit capable de dominer tout ça, dominer cet élan, etc. Dans le Navi, Micha, c'est très connu, il dit « Igid lecha adam ma tov, ou ma Hashem elokecha shoel mimcha, ki im asot mishpat, ve avat chesed, ve atzne alechet im elokecha. » Je vais te dire ce qui est bien, ce qu'Hashem veut de toi. D'abord, il veut un sot mishpat, faire la justice. Ça vient, la justice, c'est le mishpat, c'est la mida de gvura, c'est la mesure de rigueur, le din. Mais à côté de ça, avat chesed. Maintenant, on te demande avat chesed, de l'amour, de faire du chesed. Le chesed, c'est justement ce geste-là, le geste de l'ouverture. C'est ça la manifestation de l'amour. Comment est-ce qu'on fait pour faire ces deux choses qui sont contradictoires, Ahava et Ira? C'est Atzne Alechet Imalokecha. C'est cette réserve. Tu vas avec Elohim, mais toujours dans la réserve, dans la tzniut. Zeus Gulat Anava. C'est-à-dire, comment, dans quel cadre, comment est-ce qu'on peut faire les choses? Ben, c'est toujours avec Anava, avec humilité, avec modestie. C'est-à-dire s'effacer complètement devant Hachem, accepter complètement sa condition de Evet. Cette force-là, elle, c'est ça qui est capable de maîtriser, en quelque sorte, toutes les forces d'âme, en fait. Donc, c'est ce qui va me permettre de faire vraiment la avoda telle qu'elle est demandée par Hachem. Moshe était là, il était avec eux. Donc, lui, il a une ahava, il a un amour très englobant pour tout le clan d'Israël. Mais quand il s'en va, il disparaît, il faut que les Bnei Israël aient appris à faire fonctionner les limites avec la Yira. Il faut qu'ils aient emmagasiné suffisamment de Yira pour mettre des limites, y compris à leur élan de s'approcher d'Hachem, etc. C'est-à-dire limiter l'amour. Par amour, ça peut déborder. C'est ce qui est dit ici à l'entrée de, au moment où on va commencer la avoda de Korbanot dans le Mishkan. Parce que justement, il va y avoir des occasions où ça va planer sérieusement. Il a fallu, quand Hachem a donné l'ordre de construire le Mishkan, et que Moshe a répercuté aux gens, voilà, faites des dons, ben, ils ont donné, et ils en ont trop donné. Il a fallu leur dire, stop, arrêtez de donner. On aurait pu dire, laissons, on trouvera toujours un usage de ce qui a été donné en trop, on n'aura pas besoin pour construire le Mishkan, on va utiliser pour aider les gens, etc. Non, stop, pas plus. C'est dire stop à la manifestation de l'amour. Dans l'inauguration, dans cette situation, on est en train d'inaugurer le Mishkan. Et où on a cette idée, ce problème de Yoter Midai, c'est trop. C'est trop de manifestations, d'explosions de joie, etc. On a bien compris le pourquoi c'est arrivé, mais c'est trop. Même si, en fait, même si, à la limite, si on en faisait trop, alors de nouveau, on retombe dans le vaudor. C'est de nouveau pas de limite, quoi. On a vu, le Mishkan, il a pour fonction de d'essayer d'effacer les traces de cette saleté de Vaudor, quoi. Et même si effectivement, à ce moment-là, dans cette situation qui a été corrigée par Moshe Rabbeinu, donc il y a cette espèce de folie qui s'est emparée d'eux. Et d'abord, il y a un moment où ils se sont, justement, le Mishkan est devenu plus fort que la notion de mitzvah. Le Mishkan, qui est vu comme une expérience, permet de s'approcher d'Hachem. On voit les korbanot, c'est pas parce que je veux montrer que je suis esclave d'Hachem. C'est une volonté de m'approcher, de m'élever jusqu'à m'approcher au maximum d'Hachem. C'est pas ça la Torah. Souvent, les gens confondent, s'imaginent qu'il n'y a pas de spiritualité, etc. dans la... Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi au titre de la spiritualité. Il y a 365 lotas, un par jour. Donc, il y a beaucoup de lotas, beaucoup de limites. Et il y a des gens qui sont gênés par ça. Ils voudraient bien qu'il y ait moins de limites. On n'a pas besoin de tellement de limites. On aime Hachem, donc ça devrait suffire, non? Non, ça ne suffit pas. Il n'y a pas de place pour l'amour d'Hachem. Il faut d'abord mettre en place la royauté, reconnaître Hachem comme roi, et après seulement tu peux aimer. Tu peux aimer le roi. Mais ne pas oublier qu'il est le roi. Et que toi, tu n'es qu'une créature. Qu'un sujet de ce roi. Donc on voit très bien qu'au moment même où on est en train de faire ce qui va apporter l'accaparat pour le Vaudor, on est de nouveau en train de fabriquer du Vaudor. Au nom de, on veut s'approcher d'Hachem. Mais c'est pas ça. Il faut d'abord, je répète, c'est tout. Je répète 100 fois parce que c'est ce qui est écrit ici au début de la paracha. D'abord reconnaître qu'on est des sujets. D'abord reconnaître que nous sommes avadim. Et en tant que Eved, on te promet la possibilité de t'approcher au maximum d'Hachem. Mais si tu n'es pas rêvé, tu peux t'approcher du tout. C'est l'idolâtrie. Ce qu'ils ont dit. Oto yetserara ta'aviru min bavchem. Ce yetserara a fait disparaître complètement de votre cœur. S'il leur dit, c'est qu'il n'a pas encore disparu. Fabriquer de l'unité, fabriquer une unité dans la yira. Tout le monde imprégné de yirat Hashem. C'est-à-dire quoi? Le charet lifne amakom. D'être au service d'Hashem. Servir Hashem devant lui. Être serviteur d'Hashem. Et ça ne s'exprime pas par la Hava. Ça s'exprime par le Maasé. Je fais l'acte qui m'est prescrit dans sa nudité, en quelque sorte. Et je répète, même si, Moshe Rabbeinu l'a dit clairement, même si quand vous aurez fait ça, vous aurez accès au maximum qu'on peut obtenir. Mais ce maximum-là, il n'est pas atteignable autrement que après avoir fait acte de soumission, acte de « nous sommes tes serviteurs ». À ce moment-là, effectivement, la voie est libre. Tu vas pouvoir t'approcher d'Hachem parce que ce sera dans la Ira, ce sera avec ce « Be'atzne alechet » de façon réservée. La réserve, c'est quoi? C'est la Ira. La Ira qui va t'empêcher de faire n'importe quoi au titre de la Ahava. Ne faites pas donc les mitzvot pour le salaire que ça va vous donner. Ne faites pas les mitzvot pour vous approcher d'Hachem. C'est un peu paradoxal. Faites les mitzvot pour reconnaître que vous êtes serviteur. Après, vous pourrez vous approcher d'Hachem. C'est une erreur de penser que de faire les mitzvot, tout court, c'est s'approcher d'Hachem. Faire les mitzvot, c'est reconnaître qu'on est évêque. Et après, la mitzvah, elle va te permettre de t'approcher d'Hachem. Imasitem ken, dit le Torah de Kohanim, si vous avez fait comme ça, ira alechem kvod Hachem. À ce moment, la gloire d'Hachem va se manifester pour vous. Vous allez avoir le privilège de la voir apparaître. Je suis esclave et je ne cherche pas à en tirer profit. Même pas un profit spirituel. J'ai pas de démarche. Je sais que ça va donner, mais ça ne fait pas partie de ma motivation. Moi, je crois. Donc, la leçon de ces quelques premiers versets de. Le Shmini, mais la leçon de l'inauguration du Mishkan, dans lequel on voit très bien que le Mishkan lui-même est très dangereux. Il faut que Moshe Rabbeinu s'y prenne à deux fois, en quelque sorte. Ce qu'il a dit au début, ça a laissé de la place à une mauvaise interprétation. Donc il revient et il dit, attention, c'est pas du tout comme vous avez pensé. Ça, c'est aussi important pour nous, c'est-à-dire. C'est sûr que on veut s'approcher de l'Hachem. D'accord? Mais il y a une règle très claire. Fais d'abord les mitzvot. D'abord, tu reconnais ta condition. Voilà, on va s'arrêter pour ce soir. Merci.
Merci.